Bonjour à tous. Merci, Bart, pour l'invitation qui a été pour moi un grand plaisir. Dans ma présentation, je vous donnerai des informations de base sur la thérapie génique d'abord, et après, je discuterai un peu les problèmes qu'on rencontre en choisissant les patients pour pour le premier traitement de thérapie génique. Alors, la thérapie génique peut être définie comme l'introduction de l'expression d'acide nucléique exogène dans un tissu hôte pour le traitement d'une maladie. Théoriquement, il existe diverses possibilités de thérapie génique, mais celle qui nous intéresse aujourd'hui est fondamentalement une thérapie de remplacement, dans laquelle, en présence d'une activité défectueuse d'un gène particulier au niveau de la rétine, il est introduit de l'extérieur dans l'œil la version normale du même gène, de manière à restaurer sa fonction. Pour introduire les matériels génétiques à l'intérieur des cellules rétiniennes, sont utilisés des vecteurs viraux inactivés à l'aide d'une injection sous-rétinienne. L'œil est un organe idéal pour la thérapie génique. Et je voudrais souligner ce point parce que je pense que l'expérience que nous faisons aujourd'hui au sujet de la thérapie génique pour les yeux sera très utile pour le développement de la thérapie génique au-delà des yeux, dans d'autres parties de l'organisme. Mais pourquoi l'œil est particulièrement adapté pour la thérapie génique? Bien sûr, parce que c'est un organe externe, facilement accessible au niveau chirurgical, parce que c'est un organe petit et par conséquent, il nécessite d'une dose mineure de médicaments. Il est explorable avec facilité. Maintenant, le niveau de l'imagerie rétinienne est très élevé, très sophistiqué, de grande qualité. Nous avons actuellement une bonne connaissance des bases génétiques de nombreuses maladies dégénératives rétiniennes et il existe des fiables modèles animaux qui ont été très utiles pour les essais, les études précliniques. Mais bien sûr, on doit se rappeler qu'il y a aussi des limites pour la thérapie génique. Et je voudrais souligner deux limites qui ont des implications pratiques. La première limite est que la thérapie génique, évidemment, nécessite l'identification précise de l'altération génétique du patient. On peut pas, si je dois injecter un gène normal, je dois savoir quel est le gène altéré avant. Avec les modernes techniques de biologie moléculaire pour les dystrophies rétiniennes, la diagnostic moléculaire peut être possible dans la majorité des patients examinés. Mais pas pour tout. À peu près, je pourrais dire que un diagnostic moléculaire est possible dans les 65-70% des dystrophies rétiniennes, mais est que cette diagnostic n'est pas possible pour tous les cas. D'autre côté, il y a également un problème que je dirais social, au moins en Italie, c'est-à-dire que ce n'est pas facile pour tous les patients d'avoir l'accès aux tests génétiques pour des raisons d'ordre social, l'organisation, les ressources et tout, peut-être aussi culturelles, parce que je crois que au moins en Italie, pas tous les médecins quelquefois comprennent l'importance des tests génétiques. Le deuxième limite, c'est que sur le plan conceptuel, bien sûr, la thérapie génique vise à réactiver la fonction du gène modifié afin d'empêcher une progression ultérieure de la maladie. Mais elle ne peut pas régénérer les cellules déjà perdues. Donc, le dommage déjà constaté n'est pas complètement réversible. Il y a donc potentiellement de meilleurs résultats si le traitement est fait assez tôt dans l'histoire naturelle de la maladie. Cette affirmation ne doit pas être considérée absolue parce que les études cliniques ont également montré une certaine amélioration de quelques paramètres visuels après les traitements. Ici, vous voyez un résumé de l'histoire de la thérapie génique pour la rétine. Pour la dystrophie rétinienne, le premier gène pour lequel la thérapie génique a été testée est le gène RPE65. impliqués dans le cycle visuel et d'abord des essais ont été effectués sur des animaux porteurs d'une maladie similaire à celle de l'homme. Ici vous voyez les célèbres Lancelot, les premières chaînes traitées avec la thérapie génique et qui après le traitement est devenu un peu un témoin de la recherche dans le domaine de la thérapie génique en ophtalmologie. En 2008, trois essais cliniques différents ont montré la relative innocuité et efficacité du traitement, également sur l'homme, et après la thérapie génique, on a observé des résultats visuels partiels, mais appréciables et stables pendant des années. Maintenant, je crois que la durée du follow-up est arrivée jusqu'à 5 ans. Bien sûr, le relatif succès de la thérapie génique a stimulé, la thérapie génique avec le gène RP65 a stimulé des autres essais cliniques. Je crois que le professeur Leroy vous parlera de ça plus tard. Mais jusqu'à aujourd'hui, le seul traitement qui a été approuvé, c'est la thérapie génique des dystrophies rétiniennes due au gène RP65. Et ce traitement est connu, comme vous savez, sous le nom commercial de Luxturna. Et est approuvé aux États-Unis et en Europe l'année passée. Après les premiers traitements aux États-Unis, des traitements ont été déjà effectués en Europe cette année, en France et en Allemagne. En Italie, nous sommes proches aux premiers traitements qui seront effectués dans les prochains mois à Naples et à Florence. Florence, c'est le centre où je travaille. Donc, j'ai commencé à être proche aux premiers traitements et je sens la responsabilité de la choix des patients. Et en allant vers la thérapie génique, je sens la différence, je sens beaucoup la différence entre les essais cliniques et la thérapie génique qu'on va faire aujourd'hui. Et il y a au moins deux différences. La première est que, au contraire d'un essai clinique, le coût de traitement n'est pas supporté par une entreprise, mais par l'État. C'est-à-dire que ceux qui réalisent la thérapie génique utilisent de l'argent public et c'est une somme importante. Je ne sais pas ici en Belgique, mais en Italie, le traitement d'un œil coûte 400 000 euros à peu près, c'est-à-dire le traitement d'un patient de yeux coûte 800 000 euros. La deuxième responsabilité est surtout, bien sûr, envers les patients, parce que, au contraire de l'essai clinique, les patients, dans ce cas, savent qu'ils ne participent pas à un essai, à une expérimentation. Dans l'idée d'expérimentation, il y a l'idée de quelque chose qui, au fond, peut aller bien ou mal, ou comme ça. Mais aujourd'hui, quand je parle aux patients de la thérapie génique, ils savent qu'ils vont recevoir un vrai traitement. Et donc, justement, ils s'attendent à prendre peu de risques et d'avoir des résultats. Donc, nous avons maintenant la responsabilité de choisir les premières patients. Et on se rend pas compte, la première difficulté est que au moins en Italie, je ne sais pas ici en Belge, mais dans le contexte italien, que c'est le contexte où je travaille, nous ne serons pas probablement en condition de traiter tous les patients potentiellement adaptés. Et donc probablement nous devrons faire des choix et nous devrons établir des critères, des priorités. Pour le moment, nous espérons être en condition de traiter les deux premières patients au début de la nouvelle année par le soutien d'un fonds spécial du ministère de la Santé pour les traitements innovatifs. Mais après, nous espérons à partir des mois de mars-avril en Italie, ce traitement sera financé régulièrement, nous espérons, par le Service national de santé par l'intermédiaire de l'Agence italienne des médicaments. Alors, en faisant un choix, quel est le patient idéal pour la thérapie génique? Bien sûr, le patient idéal, c'est un patient, le critère général est donc d'intervenir, si possible, à des stades relativement précoces de la maladie, lorsqu'il y a encore une activité visuelle importante à sauver. Et donc, le patient idéal sera serait alors un patient jeune avec un certain maintien de la capacité visuelle et des structures rétiniennes. Mais c'est une définition, comme vous voyez, très générique, très spécifique, et aussi la définition, les indications des fiches techniques du médicament de Luxturna est très générique. Il parle de patients adultes pédiatriques présentant la perte de vision due à la dystrophie rétinienne héréditaire provoquée par des mutations bialéliques confirmées et presse 65 qui ont des cellules rétiniennes vitales suffisantes. Ça veut dire tout et rien, je dirais. Et alors, nous devons faire un effort pour préciser les indications et faire les choix qui sont devant nous. Des indications, on peut prendre des indications dans l'essai clinique de phase 3 du professeur Russell, 2017, mais surtout, je crois, par les protocoles utilisés en France pour financer le traitement, c'est un protocole d'autorisation temporaire d'utilisation où il donne trois critères. Le premier, c'est pour être admis à la thérapie. Le premier est l'épaisseur de la rétine avec l'OCT majeur de 100 microns au pôle postérieur. Le deuxième, la zone de la rétine sans atrophie ou dégénérescence pigmentaire majeure de 3 disques optiques. Et le champ visuel résiduel d'au moins 30 degrés. Les indications sont pour les patients devraient avoir un de ces trois critères. Un protocole similaire a été adopté en Allemagne et publié dans un article spécifique de la Société allemande d'ophtalmologie. Il est presque similaire à celui-ci utilisé en France. En Italie, aucune directive spécifique n'a été adoptée jusqu'à aujourd'hui. Nous avons stimulé la formation d'un comité d'experts qui a été mis en place et se réunira pour la première fois à Rome le vendredi prochain. Alors, comme vous voyez, les indications sont, il y a des indications, mais ne sont pas des indications très précises. Alors, peut-être on doit faire ces choix en évaluant différents facteurs prognostiques. Que je vais résumer très vite. Il est clair que l'âge est un facteur très important pour les patients plus jeunes sont théoriquement plus indiqués pour recevoir le traitement. Deuxième, l'acuité visuelle elle seule ne semble pas être un facteur fondamental. Il y a aussi une raison, je dirais, historique ou sociale. Nous devons tenir compte que dans le futur, probablement, le traitement sera effectué assez tôt dans l'histoire naturelle de la maladie et donc chez les patients avec acuité visuelle relativement maintenue. Mais actuellement, il y a de nombreux patients à un stade relativement avancé de la maladie qui pourraient toutefois bénéficier du traitement. Et ça, c'est un problème très important parce que nous ne pouvons pas refuser, je crois, le traitement à ce type de patients. De plus, même la pratique clinique, mais l'expérience, je crois que même votre expérience montre que même une acuité visuelle apparemment faible peut permettre une bonne autonomie personnelle. Notre but, ce n'est pas seulement de lire des lettres en plus, mais de faire une vie meilleure. Et je crois qu'on doit tenir compte de ça en choisissant les patients pour le traitement. L'analyse des champs visuels, c'est un autre paramètre important, mais par exemple, en révisant les résultats de l'étude de phase 3, on a observé que même qu'on a eu une réponse au traitement, même chez des patients ayant débuté avec un champ visuel très limité. L'OCT est probablement plus important parce qu'il nous donne la possibilité d'évaluer anatomiquement l'étendue et la structure de la rétine résiduelle. S'il n'y a pas de cellules, il est très difficile d'avoir des résultats. Je pensais que la rapidité de progression pouvait être un autre paramètre, mais parce que dans mon expérience, l'expérience de nous tous, est-ce qu'il y a des cas qui vont très vite, il y a des cas qui restent relativement stables. Mais la littérature et le débat avec des autres collègues montrent que C'est très difficile de faire une évaluation prognostique de ça parce que la progression de la générescence rétinienne n'est pas toujours linéaire, de sorte qu'il est difficile de faire des évaluations prognostiques fiables. Il reste le problème de la génétique moléculaire. Nous faisons un traitement pour résoudre le problème des altérations génétiques au niveau du gène RP65. Mais nous devons, il est nécessaire pour ça, être sûr que ce sont précisément les altérations du gène RP65 qui sont responsables de la maladie. Comme avons vu, les indications de la fiche technique sont très génériques. Il parle seulement des mutations bialéliques, c'est ça. Mais nous devons être sûrs que ces mutations sont pathogéniques. Que veut dire ça? Ça veut dire que lorsque des variants du patrimoine, on trouve des variants du patrimoine génétique, il n'est pas toujours certain que ceci cause des effets négatifs sur la protéine et détermine la maladie. Il faut aussi donc clarifier la pathogénie, c'est-à-dire la responsabilité d'une mutation donnée dans la détermination de la maladie. Je dois être sûr que c'est la mutation qui cause la maladie. Cette pathogénie est évidente lorsque la mutation a déjà été rapportée dans la littérature scientifique chez autres patients souffrant de la même maladie. Mais elle peut être plus incertaine dans les cas où la mutation est détectée pour la première fois. Même s'il existe des méthodes qui permettent de déterminer ou d'évaluer la possible pathogénie d'une certaine mutation, par exemple en utilisant des logiciels prédictifs spécifiques. Aujourd'hui, la seule indication pour la choix des mutations adaptées pour la thérapie génique, c'est l'indication de la société allemande. Le protocole de la société allemande se réfère à une classification des mutations pathogéniques de l'American College of Medical Genetics et le protocole allemand recommande le traitement seulement dans les cas où il y a des mutations pathogéniques ou likely pathogéniques. Mais même ces points pourraient être débattus, parce que par exemple, si on va voir, on va examiner les résultats de l'étude de phase 3, l'étude pré-registrative de phase 3 du professeur Russell, on voit qu'il y a eu des résultats favorables, même en traitant aussi des patients avec comme on l'appelle, VUS. VUS, c'est Variant Uncertain Significant, c'est-à-dire des variations du ADN dont les implications pathogéniques n'est pas sûres, n'est pas claires. Je crois que dans des cas particulièrement complexes, il pourrait être utile faire des études fonctionnelles. Il y a aussi, comme vous voyez, même la littérature quelquefois suggère ça, c'est-à-dire les études fonctionnelles, c'est-à-dire des expériences en laboratoire qui évaluent in vitro les effets du gène muté sur la production et la fonction des protéines. En Italie, nous avons parlé de mettre en place un laboratoire de référence au niveau national, précisément pour le contrôle des mutations et d'une étude con le contrôle de valeur des implications cliniques des mutations et une étude approfondie de leur pathogénie. En cas de doute, en cas de mutation incertaine, je dirais, il pourrait être également très important d'évaluer avec précision, en détail, les phénotypes, parce que certains aspects cliniques, apparition précoce de la maladie, hémérolopie, grave perte visuelle associée au maintien relatif de la structure rétinienne, réduction, par exemple, de l'autofluorescence et d'autres, peut être indicative, elle-même, pour une rétinopathie associée au gène RP65, même en présence d'un génotype plus incertain. Ici, vous voyez, par exemple, ça c'est l'article du professeur Lawrence au sujet de l'autofluorescence, et dans la partie supérieure de la diapo, vous voyez de nos patients, vous voyez que l'autofluorescence est presque complètement disparue. Et ça pourrait être un signe indicatif pour la présence d'une rétinopathie associée au gène RPE65. En conclusion, la thérapie génique des dystrophies rétiniennes peut être considérée un traitement révolutionnaire, car pour la première fois, elle offre une possibilité thérapeutique concrète pour des patients pour lesquels, jusqu'au présent, nous ne pouvions faire beaucoup. Jusqu'aujourd'hui, le seul traitement approuvé, c'est la thérapie génique des dystrophies rétiniennes due au gène RPE65, connu sous le nom commercial de Luxturna. Luxturna est un vrai médicament et donc il est très différent d'un essai clinique. Nous ne serons probablement en condition de traiter, nous en Italie, je ne sais pas ailleurs, nous ne serons probablement pas en condition de traiter tous les patients potentiellement adaptés et il faudra donc faire des choix. Le critère général est bien sûr d'intervenir si possible à des stades relativement précoces de la maladie lorsqu'il y a encore une activité visuelle importante, mais la question est encore débattue. Il est nécessaire d'être sûr que ce sont précisément les altérations du gène RPE65 qui sont réellement responsables de la maladie. Et enfin, je crois que des lignes directrices, des guidelines partagées parmi, par exemple, différents pays de la communauté européenne, peut-être à travers une collaboration de l'ERN, l'European Retinal Network, pourrait être très utile pour des choix équilibrés. Merci pour votre attention.